Et vous écoutez France Culture. C'est dans la chair que la sagesse prend racine. Méfie-toi de ce qui n'est pas chair, méfie-toi des dieux, méfie-toi des idées, méfie-toi du diable. Anne Rice, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui verra deux faits étranges, sanglantes et sulfureuses, clore son année 2017 et se pencher déjà sur le berceau de 2018. J'ai nommé Anne Rice et Marjorie Cameron. La première conteuse que son cycle des vampires a rendu mondialement célèbre accorda à Hubert Prolongeau pour Mauvais genre un long entretien où elle revient sur sa vision et son compagnonnage avec Lestat et les buveurs de sang. La seconde, Marjorie Cameron, amie de Kenneth Anger et gérie de l'underground luciférien américain, est au cœur de l'exposition à Montsoleil. Le désir, retour sur 20 ans de mauvais genre, qui lui consacre sa première rétrospective européenne. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans le dernier mauvais genre de l'année 2017, donc petite émotion. Une émission que nous ferons en compagnie d'Hubert Prolongeau, bonsoir.
Bonsoir.
Nous le ferons également avec Jean-François Sens et Wayne Chardronneret, qui ne vont pas tarder à joindre ce plateau, qui sont en route pour le studio. Avec vous, Hubert Prolongeau, on va entendre Anne Rice, parce qu'effectivement, il y a de cela près d'un an, vous étiez allé
voilà,
la
Noël,
voir.
Voilà, Noël, je suis allé à Palm Springs, en Californie, dans ces espèces de villes très étranges, installées dans le désert, assez laides, où on a l'impression que personne ne peut marcher à pied, parce que toutes les rues sont quasiment des autoroutes. Et Anne Rice, qui est née à la Nouvelle-Orléans, pour qui la Nouvelle-Orléans est fondamentale dans son œuvre, s'est déplacée en Californie, à la fois pour se rapprocher de son fils, qui est un animateur télé, écrivain lui aussi, homosexuel militant et qui vit là-bas, et parce qu'elle a des problèmes de santé, elle a 76 ans maintenant, qui nécessitaient qu'elle aille au soleil de façon plus permanente. Donc elle a déménagé sans enthousiasme excessif à Palm Springs.
Voilà Anne Rice qui revient à l'actualité en librairie grâce à Michel Lafon, donc qui a déjà publié depuis pas mal de mois Prince Lesta, Chronique des vampires, et puis le dernier volume
Prince Lesta et l'Atlantide.
Voilà l'Atlantide.
Et les deux étant une espèce de renaissance de Lestat qui depuis 10 ans. N'apparaissait plus dans les livres d'Anne Rice. Elle avait annoncé elle-même qu'elle laissait tomber le personnage, et puis comme elle le raconte, voilà, elle a eu des choses encore à lui dire. Elle a relancé ce chevalier de l'ombre sur les routes de l'aventure.
Et aucun véritable héros qui ne fasse un petit séjour en Atlantide. Vous êtes allé en Atlantide de... Céline Duchesnay.
Ah, j'aimerais bien. J'en ramènerai peut-être quelques découvertes et quelques belles âmes.
On compte sur vous en attendant. Ben, c'est avec vous qu'on va ouvrir, comme samedi, pour la dernière fois en cette année 2017, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et la lettre, c'est pas A comme Atlantide, c'est...
C'est la lettre P comme petit, Élodie Petit.
Ça parle aussi beaucoup de flux, de fluide. Je suis très attachée au parler cru et à une sorte de vulgarité, on va dire. Tout ça, ça vient d'une fascination pour le sexe. Pour le sexe cru, pour la pornographie, ce qu'on montre des corps, ce qu'on imagine, ce qu'on fantasme. Et aussi, je sais pas en fait, c'est vrai que je me suis mise à dessiner, je dessine des partous gigantesques, des échanges de fluides et jusqu'au moment où on m'a dit mais ce que tu j'étais au Beaux-Arts à ce moment-là, ce que tu dessines c'est ce que Cathy Hacker écrit. Et là je pense qu'il y a eu vraiment une rencontre folle et déterminante avec cette littérature qui me mue à l'heure actuelle et qui fait aussi partie de toute la volonté que je mets dans les éditions douteuses.
Les éditions douteuses sont nées en 2011. Créer le doute, semer le trouble, en remettant en question les sexualités, l'identité, la binarité de genre, avec la volonté de faire exploser les carcans de la poésie contemporaine et de l'art contemporain. Voilà le défi que lance Élodie Petit, artiste et poète féministe. Un goût prononcé pour la littérature hors normes, Cathy Hacker, Guillaume Dustan ou Tony Duvert, une sensibilité anarchiste, un goût punk et du do-it-yourself, bienvenue chez les douteuses. Élodie Eddie Petit, accompagné de son acolyte Marguerin Lelouvier, auteur PD et anarchiste, distille ses publications par Internet ou à travers des fanzines colorées. On y reconnaît son goût pour le tract militant avec des titres qui titillent l'œil. Homosexualité et civilisation extraterrestre, Les contes de l'anus, Le mauvais goût des femmes et des homosexuels, trois textes de Marguerin Lelouvier, sans oublier Va te faire baise ailleurs et Je gicle sur ton mari, pamphlet érotique énervé d'Élodie Petit. Car on le sait, parler sexualité est un bon moyen pour observer les rapports de domination et de pouvoir.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment le fait de parler de là d'où on vient, le fait de solliciter son expérience et de réfléchir vraiment à la place qu'on tient et ce qu'on en fait et de comment le corps est politique. Et donc dans « On ne sait plus pourquoi on vit » et ça dérape, ça parle vraiment de mon parcours en tant que femme dans une institution comme les Beaux-Arts, on va dire au départ. Mais comment je me crée en tant que femme artiste et qu'est-ce que je trouve sur ma route. Et après, si on parle aussi de... Enfin, moi, il y a vraiment un truc qui me tient à cœur en ce moment, qui est de faire émerger plus de discours sur sur la sexualité lesbienne et la difficulté d'être donc une femme artiste, encore plus une femme poète. Parce que finalement, c'est encore un milieu qui est très, très masculin et assez macho, que quand malheureusement, tu vas à la bibliothèque ou dans une librairie pour trouver de la poésie, de la poésie érotique, n'en parlons même pas, mais de la poésie écrite par les femmes, et ben c'est pauvre, t'as que dalle, et ça te rend hyper triste. Il y a peu de place pour tout ça, et c'est vraiment un truc que j'ai envie de remuer et de rendre nécessaire, enfin nécessaire, je sais pas si c'est le mot, mais important. Mes pieds mouillent le sol en eau salée et trouble. Ça fait tache devant les gens qui ne s'attardent jamais à ça, qui associent le mouillé au sale, la fuite au pas normal. Une femme n'éjacule pas. La femme fontaine n'existe pas. La femme peut exploser en feu de mouille incontrôlable. Incontrôlable. Et ça, tu ne peux pas le supporter. Et mes doigts trempent les touches du clavier, et ma chatte trempe ma culotte, le drap, ta cuisse. Et les pores saignent avant qu'on les mange, avant que la chair ne déploie ses résidus malades, son enfer de macération d'excréments.
Pour retrouver Les cafards dansent autour des poubelles, poème dont Élodie Petit vient de vous livrer un extrait, rendez-vous sur le site internet d'Élodie Petit, www.elodiepetit.fr. Vous y trouverez le beau catalogue des éditions douteuses. Sinon, ces poèmes sont à découvrir dans le prochain numéro de la revue Féroce, Cahiers érotiques, dont je vous reparlerai sous peu, ainsi que dans Terrain vague, revue Borderline. À noter sa contribution à l'automne 2018 au prochain cahier Georges Bataille.
Merci Céline pour cette entrée douteuse et ô combien de notre encyclopédie pratique des mauvais genres dont je rappelle, c'est encore temps pour les beaux cadeaux en cette fin d'année, donc le volume est paru aux éditions Nada.
Voilà, et c'est bien de finir l'année sur les éditions douteuses.
Voilà.
Le doute et le trouble.
On signale aussi que notre belle exposition commune à mon mauvais genre et à mon seul désir, donc chez Agnès B au 17 rue Dieu s'achèvera le 10 janvier.
On prépare une belle,
soirée. Et grande soirée. Donc venez nombreux à pied, à cheval ou en roller, mais venez. C'est le 10 janvier, rue Dieu. Merci Céline. Donc eh bien maintenant, c'est avec Hubert Prolongeau que l'on va se livrer à des rencontres douteuses. Bon, pas tant que ça.
Bah, pas du même genre. En tout cas, je ne sache pas que Prince Lestat ait jamais giclé sur le mari de personne, mais pas non plus un personnage extrêmement recommandable.
Très bien Hubert. Bah, voyons tout cela avec Anne Rice. Thank you.
sol. Balsamique glacée.
Palais Blondo, un choix de Laurent Polleret pour notre playlist vampirico-luciférienne de ce samedi dans Mauvais Genre. Alors en effet, il y a un an, vous étiez allé, Hubert Prolongeau, à la rencontre d'Anne Rice, qui a été une énorme star aux États-Unis et même dans le monde entier avec les chroniques des vampires, Lesta et consorts. Aujourd'hui, le personnage est à peu près, quel est son statut? Est-ce qu'elle se maintient comme un véritable mythe, une icône, comme un Clive Barker, voilà, ou Stephen King?
C'est ça, c'est...
Ou est-ce qu'elle a renouvelé un petit peu son univers?
Non, pas beaucoup, puisqu'elle a replongé avec ses deux livres dans son univers, mais c'est exactement ça, c'est une icône. C'est-à-dire que le vampire tel qu'elle l'a créé, le vampire séduisant, le vampire hypersexualisé, le vampire qui, de monstre terrifiant, est devenu au contraire un fantasme absolu, c'est elle qui l'a fait, et il s'est diffusé dans la culture populaire, même de très grande consommation, avec Twilight, avec True Blood, qui sans doute n'aurait pas existé sans Anne Rice. Et tous ces auteurs rendent à Anne Rice l'hommage qu'on rend à la grande papesse du genre. Elle a fait de nombreuses autres tentatives littéraires, souvent en explorant des mythes fantastiques comme ça, et s'est penchée sur les sorcières avec la trilogie du lien maléfique, les loups-garous avec le don du loup, les anges avec les chansons du Séraphin, et même Jésus avec Christ the Lord, qui n'est pas traduit en français, mais qui était une extrapolation sur la figure du Christ. Elle a même fait une trilogie érotique inspirée par La Belle au bois dormant, mais la base de son univers, ce pourquoi tout le monde continue effectivement d'aller la voir, de la vénérer, de la chanter, ce sont les fameuses chroniques des vampires. Et le fait d'avoir transformé une figure diabolique et qui finissait par tomber un peu en quenouille, en mythe érotico-séduisant.
Avec un film qui n'a fait qu'amplifier encore le phénomène.
Tout à fait, et qui mettait en vedette Antonio Banderas, Tom Cruise, et donc une tripoté de garçons,
voilà,
charmant.
Le vampire, tout à fait. Avenant, ben on va écouter Anne Rice. D'abord évoquer le lieu qui est pour elle le lieu, le grand berceau à la fois de sa vie, de son histoire et de son imaginaire. C'est la Nouvelle-Orléans, donc c'est
oui,
à,
où elle
vous
est née.
Vous l'avez
voilà,
vu bien ailleurs.
Malheureusement, parce que j'aurais adoré la voir là-bas, mais ouais, sa santé et des raisons familiales lui ont interdit d'y rester. Mais effectivement, son œuvre est encore totalement ancrée dans la Nouvelle-Orléans. Elle a baigné toute jeune dans le vaudou, donc c'est aussi une fille du mystère, de l'occulte, de ce que l'aridité de Palm Springs évoque, hélas, beaucoup moins.
Anne Rice.
J'ai grandi à la Nouvelle-Orléans et je suis tombée amoureuse de cette ville très tôt. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens qui n'aimaient pas la Nouvelle-Orléans. J'aime beaucoup les maisons, les arbres, tous les éléments de la ville me plaisent. Et c'est un tel creuset dans le catholicisme français, italien, espagnol, tout est présent, mélangé à la Nouvelle-Orléans au quotidien. Quand j'ai quitté la Nouvelle-Orléans, je me suis vraiment senti comme un poisson hors de son bocal. En quittant la Nouvelle-Orléans, j'ai découvert les États-Unis et je me suis dit, ah ben voilà le pays que l'on voit à la télévision. Dallas, au Texas, très bien. La Californie, très bien. C'est de ça qu'ils nous parlent dans les séries télé. C'est là que les gens vivent. Ils ne vivent pas à la Nouvelle-Orléans, hein. Pas tous, du moins. Donc, moi, je ne peux pas échapper à la Nouvelle-Orléans. Et évidemment, on retrouve ça dans ce que j'écris.
C'est un terroir propice aux rêveries gothiques et sombres, un humus un peu putride, la Nouvelle-Orléans. Poppy Z. Bright, qui est mariée à un cuisinier du carré français, était vraiment le bon exemple. Une génération d'ailleurs postérieure à celle d'Anne Rice,
c'est ça, mais qui
de cette littérature
puisée à Anne Rice.
C'est vrai que l'endroit, ce qu'il en reste, a comme une dimension un peu élisabéthaine à la Nouvelle-Orléans. C'est un endroit
totalement
bizarre.
On n'imagine pas les héros de Anne Rice ailleurs, et c'est aussi une de ses forces, c'est d'avoir totalement incarné ça. pas, tout comme les héros de James Lee Burke ne s'imaginent pas à Los Angeles ou à New York, mais sont eux aussi totalement de Louisiane. C'est une des terres américaines, et la malédiction de Katrina a encore renforcé ça, qui est la plus porteuse de mythes. La série Tremé rendait très bien compte ça, et on pourrait imaginer Lestat, puisque Lestat voyage dans le temps, donc et a aussi des aventures contemporaines. On peut très bien l'imaginer tenant un orchestre qui déraperait le soir dans les nuits folles et chaudes de la Nouvelle-Orléans.
Alors on va écouter pendant une vingtaine de minutes Anne Rice, interviewée donc par Hubert Prolongeau, Xavier Combe bien sûr aux manettes pour la traduction. On va nous parler à la fois de son histoire personnelle, comment elle a découvert les vampires, comment elle compagnonne avec eux, parce que le vampirisme est beaucoup plus pour elle qu'un thème littéraire, c'est une vision du monde et un mode de vie. On va l'écouter donc à votre micro, Hubert Prolongeau, nous faire les honneurs de son monde fantastique, de son monde épouvantable, de son univers vampirique.
Eh bien, j'avais de nouvelles idées, de nouvelles histoires à raconter. Il y a 10 ans, lorsque j'ai arrêté, j'étais vidé. J'avais tout donné à la série et je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus de possibilités pour Lestat ou les autres personnages. Je ne voyais même pas de récit. Puis, 10 ans se sont écoulés et de nouvelles arrivées me sont venues, de nouvelles possibilités. Et par ailleurs, les personnages me manquaient. Lestat, c'est un personnage qui me manque. C'est un des personnages les plus vrais pour moi. Alors qu'il vivait à mes côtés, il était en moi, ce personnage. C'est comme si je cédais à ses pouvoirs de séducteur, en quelque sorte. Et puis, j'avais plein de nouvelles idées, et c'était difficile à mettre dans un seul roman. Et par conséquent, il fallait que je me relance. Jusqu'alors, la série était, comment dire, une collection de livres avec les mêmes personnages, avec des thèmes bien particuliers, mais tous ces romans étaient indépendants les uns des autres. Mais maintenant, avec le prince Lestat, c'est vraiment une réinitialisation. Et il s'agit de ce personnage et de la façon dont il fonctionne avec les autres pour être le leader. Quel est votre rapport à Lestat? Qu'est-ce qu'il représente pour lui? Pourquoi est-il si important? Oh, je crois qu'aucun auteur ne peut expliquer cette alchimie. Ça s'est passé comme ça, et puis c'est tout. En tout cas, quand j'ai écrit le premier livre, il n'était pas important. C'était un personnage parmi d'autres, et je mettais l'accent sur Louis et les expériences de Louis, la quête de Louis. Et j'ai été assez étonné de voir que Lestat ait pris tant de place. C'est vrai que parfois, les personnages vous font vivre cela. Ils sont là, présents en vous, mais un espèce de signal faible, et puis tout à coup, ils prennent une importance que n'ont pas prévue. Ça se passe comme ça, de façon imprévisible. Et l'auteur, lui, doit être attentif à ça. Et dès le début, les gens m'ont posé la question de savoir si Lestat allait revenir, si lui, il avait une histoire à raconter, quel était son rôle et ainsi de suite. Mais je ne m'attendais pas à ce que les gens s'intéressent plus à lui qu'au personnage principal de lui. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Il m'a fallu 8 ans pour écrire le deuxième livre des chroniques. Et à ce moment-là, Lestat était devenu le héros, le protagoniste. Peut-être parce que j'avais décidé de me lancer dans l'écriture de son point de vue, donc il fallait que ce soit le héros. Je ne suis pas le genre d'écrivain qui a un narrateur auquel on ne peut pas faire confiance. Et je ne suis pas cynique envers mes personnages. J'aime mes personnages. Moi, il faut que je tombe amoureuse de mes personnages. Vous croyez que le méchant est plus intéressant que le gentil ? Potentiellement, oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est le conflit intérieur. Si le méchant est simple, manichéen, c'est pas plus intéressant qu'un gentil manichéen. Ce qui est intéressant, c'est le mélange de l'obscurité, de la lumière, le noir, le blanc, la façon dont le personnage souffre, qui est intéressante. Quels sont ses tourments? Et les vrais méchants sont aussi ennuyeux que les vrais héros. Bon, je ne veux pas être trop romantique envers les personnages. Il faut toujours qu'il y ait une fêlure, quelque chose qui trouble l'auteur et le lecteur, évidemment, parce que c'est comme ça que je vois les gens dans la vie. Pensez-vous à la personnalité de vos personnages quand vous écrivez? Est-ce que vous savez où vous allez les emmener? Et quel est le rapport entre vous et vos personnages? Eh bien, il s'agit toujours de découvertes. Au fur et à mesure de l'écriture, c'est vrai que je réfléchissais à l'orientation que je voulais donner au roman, je me faisais une espèce de feuille de route, je réfléchissais à des thèmes, mais dès que je jette les mots sur le papier, je suis dans la découverte. Et avec la découverte, eh bien, je jette à la poubelle les projets. Ce qui compte, c'est de suivre l'écriture. Et j'essaye de rentrer en moi-même et de devenir le personnage. Et j'essaye de livrer au lecteur une voix intime. Et je mets là-dedans toute ma connaissance. C'est un processus d'amour. Et en fait, il faut s'abandonner aussi. Et il faut ne pas prendre le personnage depuis le haut. Le personnage doit être en moi. Il s'agit de partager toutes ses connaissances avec le lecteur par le moyen du roman. Et ça passe par la découverte. Donc, vous ne savez pas ce qu'il va advenir de Lestat ou des autres à partir de maintenant? Oh si, j'ai une idée assez vague, enfin, pas vraiment vague, mais Lestat, c'est le prince des vampires, c'est le héros désormais. Et dans Prince Lestat et l'Atlantide, il lui arrive des choses que je n'avais pas prévues. Mais maintenant, c'est lui qui est à la tête de la tribu. Et il y a des menaces proférées envers le reste de la tribu. Ça a toujours existé, ça. Il y avait la question de la survie de la tribu, la reine de la tribu et son avènement. Ça arrive dans le troisième livre. Elle menace l'ensemble du monde. Donc, il y a toujours eu cet élément lié à la tribu. Mais maintenant, ça devient le fil principal du récit. Ces vampires sont les métaphores du caractère de prédateur qui est en nous tous. Mais qui va menacer ce genre d'être métaphorique? Qui va faire quoi? C'est ça la question. Et quand je me lance dans le récit, tout ça c'est réel pour moi. Je ne suis pas en train de me dire, non, voilà des êtres métaphoriques. Non, non, je me dis, comment est-ce que Lestat va survivre à ça? Quel rôle doit-il jouer désormais dans le monde contemporain avec toutes les questions auxquelles nous sommes confrontés? Y a-t-il des extraterrestres dans l'espace? Sommes-nous en communication avec eux? Est-ce que notre gouvernement s'intéresse aux existences extraterrestres alors que c'est ça que c'est ce qui nous est dit par la voix des commentateurs à la télévision, vous voyez? Et j'essaye de répondre à toutes ces questions. Quel est le rôle de ces personnages? C'est invisible pour les gens, parce que les gens insistent que ces extraterrestres, ces personnages surnaturels n'existent pas. Mais il se pourrait bien que quelqu'un pourrait bien nous expliquer qu'il s'agit d'être véritable. Et à ce moment-là, que se passerait-il? J'ai toujours été enchanté par cette idée. Petite fille, j'allais au cinéma de quartier. Là, je vous parle d'une époque qui était avant la télévision. On allait au cinéma, ça coûtait 12 cents. Et on achetait pour 5 cents de bonbons. On allait au cinéma plusieurs fois par semaine. Et je suis tombé sur un vieux film qui s'appelait La fille de Dracula. Je crois que c'est les mêmes gens qui avaient fait le film Dracula. C'était un vieux film, même quand je l'ai vu moi, il avait déjà plus de 10 ans. Et moi, j'étais petite fille. Et à vrai dire, c'était un film qui était assez mal ficelé, mais moi, j'ai adoré. C'était des images en noir et blanc, ça se passait à Londres, il y avait plein de brouillard, et la fille de Dracula a été tourmentée. Elle luttait contre sa nature de vampire. Elle était peintre, et il y a une scène formidable où elle séduit une jeune fille pour que cette fille pose pour elle, pour qu'elle en fasse le portrait. Donc elle devait lui tirer le portrait sur une toile. L'autre fille était suicidaire. Elle devait se jeter d'un pont lorsque l'homme de main de la fille de Dracula l'a convaincue de venir poser pour le peintre. Et cette scène est formidable. Cette fille s'abandonne à la fille de Dracula. Scène suivante, elle se vide de son sang et il y a une ambulance qui arrive. Et maintenant, on sait qu'il y a à Londres un méchant vampire. Mais il y a le tourment dans le personnage de la fille de Dracula. Ce personnage adore l'art, la beauté, et elle cherche la rédemption. Elle sait qu'elle est la fille de Dracula, quand même. Et moi, je suis tombée amoureuse de cette idée. Je me suis dit, mais c'est formidable, c'est incroyable. Et moi, je me suis dit, ben voilà, tout est là, tout est là. Toutes les histoires sont dans celle-là. Et moi, j'étais trop petite pour expliquer cela avec des mots, mais en grandissant, c'est resté dans mon esprit, ce film, cette scène. Et puis, le hasard a bien fait les choses. J'étais en train d'écrire une nouvelle, c'était un exercice d'écriture pour moi, et je me suis dit, que pourrait-on faire si on pouvait avoir un entretien avec un vampire? Qu'est-ce qu'il raconterait? Donc, j'ai écrit cette nouvelle, et c'était vraiment ce type de personnage que j'étais en train d'interviewer dans cet entretien. Et ce personnage mystérieux, sensible, avec une nature artistique, personnage emprisonné dans le corps d'un vampire, obligé de boire du sang tous les soirs, mais qui aime les gens qui sont ses victimes. Et l'histoire a décollé. Pour moi, ça a été un déclic. C'était mon passage vers les thèmes importants que je voulais aborder. Vous avez parlé de films. Vous avez été plus influencé par les films que par les romans, n'est-ce pas ? Stoker et d'autres. Vous avez lu les auteurs ? Non, j'ai pas lu les auteurs. Je suis tombé sur le Dracula d'origine à la bibliothèque, mais j'étais trop petite, je comprenais pas, c'est trop difficile, trop ardu. Et j'étais terrifié par une des premières scènes où on enlève un bébé, le bébé est enlevé dans un sac, j'avais tellement peur que j'ai essayé d'arrêter de lire le livre. Donc moi, les vampires, je les ai connus d'abord au cinéma, dans les films. Et c'est ça qui m'a enchanté. Et lorsque je me suis mis à écrire mon premier roman, j'avais vu pas mal de films de vampires. J'avais vu notamment une série écrite par Christopher Eshowet et c'était l'histoire du vrai Frankenstein. Si tant est qu'il y ait un vrai Frankenstein, mais bon, c'était une série télé formidable dans un style très classique. Et ça, ça m'a beaucoup influencé. Moi, je voulais écrire quelque chose qui ait cet aspect classique, sentimentaliste, comme une histoire du 19e siècle. Je me souviens, lorsqu'il y avait le générique, chaque personnage apparaissait dans un cadre ovale. Et ça me plaisait beaucoup, ça. Et je travaille par intuition, pas par analyse. Donc, je me suis précipité sur ma machine à écrire. Je me suis dit, moi, je vais écrire une histoire dans ce style-là, avec la même ambiance.
Culture, mauvais genre, François Angélier.
Oui, il y a un rapport très étroit, mais je n'en étais pas consciente. Moi, j'étais en état de survie, j'étais endeuillé, j'essayais de faire face à cette perte. Et puis donc, je me suis mis à écrire, c'est devenu le roman que l'on sait. Et évidemment, il y a un lien avec la mort de ma fille. Il y avait même une petite fille vampire qui est devenue vampire à l'âge où ma fille est décédée. Mais je n'en étais pas consciente. Si quelqu'un m'avait dit « tu es en train d'écrire sur ta famille, sur ta fille. Moi, j'aurais dit non, moi, j'aime pas le réalisme. Moi, je suis en train d'écrire quelque chose de fantastique, au contraire. Donc, j'ai raconté toute l'histoire à mon mari. On est allé boire un verre, je me souviens. Et je lui ai raconté l'histoire. Et puis, même lui, il n'était pas conscient qu'il s'agissait de notre fille. Il s'agissait pas de lui, ni de moi. Bon, moi, j'étais très éloigné de tout cela. J'étais tellement plongé dans le récit, dans mon histoire, que je ne voyais pas la réalité. Ce n'est qu'après que j'ai compris, lorsqu'on a fait lire le roman à des amis et ainsi de suite, que les gens nous ont fait comprendre ce rapport. Et même, je dois résister à ça. Lorsque je me mets à écrire, je ne peux pas dire « Ah non, cette histoire-là, c'est sur mon fils Christopher maintenant. C'est ma vie que je raconte là. » Il faut que je me plonge dans l'histoire. Et à très franchement parler, je crois que la fiction et la poésie a fait cela pendant des milliers d'années. Ce n'est que récemment que les gens se sont dit que ça valait le coup de parler de leur propre expérience. Homer n'a jamais eu l'idée d'écrire sa propre histoire. Les gens voulaient simplement aller à la taverne et écouter une chanson, un récit chanté sur ce qui se passait dans le village. Lui, il a raconté l'histoire de Troie, d'Achille, d'Hector, et ainsi de suite. Et ça, c'est ça qui me plaît, moi. Imaginez, vous allez voir Shakespeare, vous dites, dis donc William, ces histoires de princes que tu n'as jamais rencontrés, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est connaître l'histoire de ce qui se passe à Stratford-sur-Avon. Raconte-nous ça. Que représente l'immortalité pour vous? Est-ce un rêve? Qu'est-ce que c'est? Je crois que nous sommes immortels à notre façon. Et évidemment, c'est une journée horrible que celle où l'on découvre que l'on va mourir et que notre conscience va disparaître avec nous. Par conséquent, nous sommes tous sous le choc de ça. Nous vivons tous dans un monde où nous nous croyons immortels. Personne ne va se dire qu'il ou elle peut mourir d'un moment à un autre. On n'est pas assez fort pour faire face à ça. Pour moi, écrire sur l'immortalité, c'est d'écrire nos sentiments et le pire aspect d'être vivant, qui est évidemment la prise de conscience du fait qu'il ne peut ne rien avoir après la vie et que la mort, c'est simplement la fin.
You have completely changed the vision of vampires. You are now aware of that, I think, but at the time you started to write.
Vous avez complètement transformé la vision qu'on a des vampires. J'imagine que vous en êtes consciente, mais à vos débuts, est-ce que vous en étiez consciente? Non, pas du tout. Je voulais simplement faire ce que j'avais envie de faire. Je voulais présenter les vampires comme étant des gens compatissants et attirants, parce que c'est comme ça que je les percevais, moi, dans ce premier film, La fille de Dracula, que j'ai vu. Donc, moi, je voulais que ces personnages soient intéressants. Je voulais qu'ils vivent, qu'ils survivent. Et c'est plus tard, lorsque les gens ont parlé de mon roman, que j'ai vu les interprétations possibles. Je savais, en tout cas, que je ne répétais pas ce qui avait déjà été fait. Je suis allé à la bibliothèque pour m'en assurer, d'ailleurs. J'ai regardé pour voir s'il y avait d'autres romans du point de vue du vampire. J'en ai trouvé aucun. Donc je me suis dit, allez, je suis libre avec ma propre vision. Je ne voulais pas répéter ce qui avait été déjà fait éventuellement. Et vous les rendez très romantiques, plein de sexualité, et ainsi de suite. Oui. Moi, je me suis mis dans la peau du vampire. Et le sang est délicieux, érotique, imaginé. Adopter la personnalité, prendre la personnalité, le sang de vie d'un autre personnage. En réalité, je ne savais pas que tout cela, ça émanait de la Bible, des premiers écrits. Le sang et la vie, je ne savais pas que Dracula citait la Bible des premiers textes. Donc, le sang, c'est la vie, et il faut que le sang coule avant que l'on puisse manger. C'est du reste la règle cachère. Donc, je me suis dit que ce serait totalement érotique, bien sûr. Ce serait leur forme d'orgasme que de boire le sang. Ils arrivent au pouvoir en donnant le sang. Est-ce que vous avez entendu parler de gens qui vivent comme des vampires? Il y en a en France. Est-ce que vous en connaissez? Des gens qui décident qu'ils sont différents, ils vivent la nuit, et parfois ils boivent le sang les uns des autres avec beaucoup de précautions, bien sûr. J'en ai entendu parler de ces gens-là. On m'en parle souvent, mais je ne les ai jamais rencontrés. Je n'ai jamais rencontré quiconque qui pense être un vrai vampire, en tout cas. Autour de moi, lorsque je vais au Festival des vampires à Nouvelle-Orléans où les fans se réunissent, je vois des gens qui adorent l'idée de l'outsider, le marginal romantique, la personne qui veut du romantisme, de la beauté, du mystère. Ils adoptent des façons de vivre et des façons de s'habiller comme au 19e siècle, avec de la dentelle, du velours, beaucoup de maquillage, parce qu'ils trouvent cela très beau. Ils veulent cela dans leur vie. La vie aux États-Unis peut être considérée comme stérile, aride, et ces gens-là veulent cette grâce, cette beauté. Et tous les vampires, ou prétendus tels, mènent une vie plus satisfaisante, je le comprends. Vous vous affranchissez des conventions habituelles des vampires, le crucifix, des choses comme ça. Ça vous intéressait pas au début, hein?
Non.
C'est plus intéressant de penser que ce sont des entités biologiques régies par les mêmes règles de la biologie que nous. Bon, ils ont des règles un peu différentes et on ne connaît pas les réponses à toutes les questions. Moi, je suis fasciné par cette idée. Selon laquelle les sorcières, les fantômes, les vampires, tous ces personnages-là ont des aspects physiques que l'on pourrait étudier et comprendre. Et peut-être qu'un jour, on pourra comprendre ce qu'est l'âme du point de vue des nanoparticules. Et j'adore lire des choses sur ce sujet. J'adore lire les théoriciens du 19e siècle qui parlent d'ectoplasme, des astres, ainsi de suite. C'est une autre façon que de parler des nanoparticules en réalité. Les nanoparticules, on ne peut pas tout détecter ce qu'il y a là-dedans, mais c'est très intéressant. Et moi, j'intègre ça dans mes romans. Vous êtes tenté par la véritable science-fiction ? J'aime beaucoup la science-fiction. J'ai toujours aimé la science-fiction, même gamine. J'ai une sœur aînée, Alice, qui est devenue écrivaine avant de disparaître. Elle a écrit 6 romans et elle amenait à la maison beaucoup d'écrits de science et de science-fiction. Elle a, donc là on est dans les années 40, 50 et on aimait beaucoup les histoires de cette époque-là. Richard Matheson, Ray Bradbury, et on était complètement accro à ça. Mais moi j'ai jamais écrit de la science-fiction parce que je ne connais pas grand-chose à la science. Moi, je m'intéresse davantage au fantastique gothique, mais il y a toujours cet élément de science-fiction dans ce que j'écris. Et dès le début, il y a une chose que j'ai découverte, c'est que dans le cadre de dédicaces, eh bien, les lecteurs de science-fiction sont les gens les plus étincelants. Ce sont des gens qui prennent très au sérieux mes romans et qui me posent des questions extrêmement métaphysiques, philosophiques sur l'estat. Et je me dis, c'est formidable d'avoir des lecteurs comme ça. Donc, oui, la science-fiction, ça me passionne. J'ai été très influencé, notamment par Richard Matheson. Le vampire est un personnage très populaire. Aujourd'hui, pensez-vous que Twilight, True Blood, c'est l'héritage que vous avez laissé? Je ne sais pas. Je laisse le soin à d'autres de répondre à cette question. Je ne suis pas surprise que si une personne trouve l'idée intéressante, évidemment, d'autres vont vouloir la partager. Mais pendant un certain temps, il n'y avait que moi qui écrivais. Puis il y a eu d'autres écrivains de la Nouvelle-Orléans de l'Orléans, d'ailleurs. Voyons qui d'autre. Il y a eu un autre. Il y a d'autres écrivains, mais ils ne sont pas arrivés dans le mainstream comme moi. J'ai eu la chance, moi, d'arriver dans le mainstream et d'être couronné de succès. Puis il y a d'autres écrivains qui sont intéressés aux vampires. Mais héritage, je ne saurais pas dire. La culture tombe amoureuse d'une idée et ça permet d'exprimer une relation avec l'idée. C'est ça qui m'intéresse. Comment voyez-vous cette vague, cette tendance? Ah, c'est intéressant, c'est très bien. Je dois dire que j'aime bien True Blood, Twilight, parce que je ne pensais pas que j'allais écrire sur Lestat à nouveau. Évidemment, j'ai changé d'avis et je suis revenu à ce personnage. Mais j'ai bien aimé tout ça. Et j'admire ce qu'ils ont fait. Lorsque les gens arrivent à une telle popularité, un tel succès, on essaye d'expliquer pourquoi, mais en réalité, on se rend compte que cette idée a rendu des tas de gens heureux. Vous savez, bon, donc cette lycéenne, le vampire, et ainsi de suite. Les gens comprennent ça, ils vivent cela. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça. Je crois qu'elle a fait des choses intéressantes. Charlene Harris, même chose. J'aime bien ce qu'elle a fait avec ces monstres. C'est très drôle, très satirique et très intéressant aussi. Donc tout ça, ça me va très bien. C'est pas une compétition, hein. Il y a tout un univers. Et en fait, le seul concurrent, c'est nous-mêmes. C'est pas comme si quelqu'un viendrait vous piquer votre idée. Non, quand on est écrivain, il faut que ça soit intéressant pour le lecteur. Et si on y parvient, peut-être que ça va fonctionner. Qui sait ? Donc vous vivez au quotidien avec des vampires ? Ah oui, oui, oui. Pas tellement avec les sorcières. Pour moi, une sorcière, c'est une personne qui peut être sensible au surnaturel et en contrôler certains éléments. Mais moi, j'aime bien écrire ces récits sur la famille Mayfair et les sorcières, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. Ce qui me passionne davantage, c'est les outsiders, ces immortels, les témoins du monde dans lequel nous vivons. C'est ça qui me passionne en ce moment. Comment Lestat écoute le monde, comment il écoute Freddie Mercury, comment il perçoit Weber, qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il veut voir le fantôme de l'opéra. Ça, ça m'intéresse, le prisme de Lestat. En plus de Lestat, il y a beaucoup de réflexions sur le monde moderne, Internet, et ainsi de suite. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce monde? Ou est-ce que vous considérez que le monde est un petit peu étrange? À vrai dire, moi, je ne me suis jamais vraiment senti à l'aise dans notre monde. Je ne suis pas à l'aise avec une identité liée au genre. Ce n'est pas quelque chose qui me met à l'aise. Et il y a beaucoup d'écriture qui vient de cet inconfort. Le fait qu'on se sente à l'écart, je n'appartiens nulle part, dans aucun groupe. Donc les vampires sont l'expression de ce malaise qui est le mien. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur et qui doivent faire face à cet inconfort. Je suis très surprise lorsque les gens me disent qu'ils se sentent à l'aise et intégrés dans le monde, ou lorsque les femmes me disent qu'elles sont tout à fait à l'aise dans leur identité de femme. Je n'ai aucune idée de ce dont elle parle. Je ne peux même pas imaginer pouvoir être à l'aise en tant que femme, moi. En tant que femme, je veux dire, vous voyez, moi je suis une entité qui perçoit, qui parle, mais je ne suis pas liée à aucun genre que ce soit. Ce n'est pas un rôle confortable que celui qui est lié au genre. L'érotisme est très présent dans votre œuvre. Et la bisexualité Et tout à fait naturel. Comment y êtes-vous venu? Ah ben oui, c'est tout à fait naturel pour moi. Encore une fois, le genre, ce n'est pas important, même quand on tombe amoureux. Le genre ne joue aucun rôle lorsque l'on ressent une émotion aussi forte que l'amour. Vous êtes fasciné par une personne et vous êtes amoureux au point d'en avoir besoin chaque jour. Ça n'a rien à voir avec le genre. Par conséquent, ça se passe comme ça. Moi, je prévois rien. Hein. Je me dis pas, ah tiens, je crois que je vais que Louis va tomber amoureux d'un autre homme. Non, j'y pense pas. Il rencontre Armand et il se dit, voilà, c'est lui, voilà, mon âme sœur, c'est lui.
Voilà l'entretien que Anne Rice, et on la remercie, a accordé à Mauvais Genre et à Hubert Prolongeau. Quelques mots d'ailleurs sur le cadre, parce qu'on a longtemps Anne Rice évoquer un univers évidemment qui est le sien, qu'on connaît bien, mais dans quel type de cadre cela a-t-il été fait?
C'est amusant parce qu'on est accueilli au début par une dame toute petite avec un visage de poupée, les cheveux gris, une main presque diaphane qui a préparé des sandwichs au concombre. Donc j'avais l'impression d'être en visite de Noël chez ma tante Suzanne. Oui. Puis à la fin de l'entretien, on monte au deuxième étage. Et là, ça devient beaucoup plus baroque. Il y a une immense salle télé. Des fois, elle ne descend pas pendant des semaines de ce deuxième étage. Il y a une collection de séraphins qui viennent du Brésil. Il y a une collection de toutes petites maisons. Il y a les tableaux de son mari, Stan, qui est mort en 2009, qui était un peintre naïf. Et elle vit beaucoup, beaucoup recluse, pratiquement, dans cet univers à la fois coloré et impressionnant et impressionnant.
Avec un dévoué serviteur.
Un dévoué serviteur qui est assez formidable, qui s'appelle Beckett, qui a les cheveux jusqu'aux épaules et qui est un moine bénédictin défroqué qu'elle a rencontré à une convention de fans. Et ça a été une sorte de coup de foudre que je viens croire totalement platonique, mais en revanche intellectuellement très fort. Et depuis, il lui sert d'homme à tout faire.
Eh bien écoutez, merci Hubert Prolongeau pour cette occasion que vous nous avez fournie d'entendre Anne Rice. Nous ont rejoint donc Jean-François Sens et Owen Chardronnet. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Anne Rice, vous imaginez une rencontre entre Marjorie Cameron et Anne Rice, qu'est-ce que ça aurait pu donner?
Je sais pas, difficile à imaginer. Non, je vois pas vraiment. Voilà. Pour le moment,
on va soumettre à concours. cette hypothèse. En tout cas, vous êtes avec nous pour ce dernier Mauvais Genre de l'année parce que Marjorie Cameron, personnalité connue de certains en France et que grâce maintenant à l'exposition À mon seul désir, retour sur 20 ans de Mauvais Genre chez Agnès B, on va connaître beaucoup mieux. En tout cas, grâce à un contact direct avec et ses œuvres et les publications dans lesquelles elle a pu s'illustrer aussi bien comme poétesse que comme artiste graphique. Marjorie Cameron, on va d'abord en parler un peu avec vous, Owen Chardronnet. C'est un personnage mythique de la contre-culture américaine et qui est un personnage totalement fascinant et sulfureux.
Oui, sans doute parce qu'elle commence un peu sa carrière d'après-guerre en se mariant avec Jack Parsons, qui est à l'époque le leader de l'Ordo Templi Orientis, le groupe d'Alistair Crowley en Californie. Et elle le rencontre en 46 et elle se marie très très rapidement avec lui. Et puis, à peine la rencontre a eu lieu, qu'elle se retrouve impliquée dans les messes gnostiques de Jack Parsons avec Ron Hubbard. Donc, très vite, ça la plante dans un contexte assez sulfureux. D'autant que personne se fait escroquer par Hubbard et ils se retrouvent ruinés tous les deux et vivent une vie très difficile par la suite.
Alors Jack Parsons est un personnage extrêmement fascinant, vous l'en avez d'ailleurs évoqué dans votre ouvrage, Moi j'avais Epiphanie, paru aux éditions Inculte. Jack Parsons, c'est à la fois un homme qui travaillait pour la NASA à concevoir des carburants surpuissants pour propulser les fusées, et en même temps un adepte de la magie sexuelle et des doctrines d'Aleister Crowley. Tout ça dans le même homme.
Oui, c'est quelqu'un qui, avant-guerre, en 36, rejoint l'équipe du Californian Institute of Technology en aérodynamique. Et lui est plutôt un autodidacte qui fait, en gros, qui est passionné de science-fiction, qui fait exploser des fusées dans son jardin. Et il rejoint des ingénieurs et des chercheurs, notamment Theodor von Karman, qui est un aérodynamiste originaire de Hongrie, qui vient de s'installer en Californie. Et donc, il fait partie de l'équipe qui va créer le Jet Propulsion Laboratory pendant la guerre. Le Jet Propulsion Laboratory étant le laboratoire aujourd'hui qui fait les robots sur Mars et ce genre de choses, mais c'est le premier laboratoire spatial américain qui va ensuite donner naissance à la NASA en 58. Donc ça, c'est sa vie, on va dire, d'ingénieur scientifique. Voilà. Il est aussi sulfureux parce qu'il est mort très jeune, dans un accident de laboratoire, justement. Il s'est fait exploser dans son labo.
C'est vraiment un accident.
Ah, il y a des thèses conspirationnistes autour de cette
Cameron
mort.
Cameron ne pensait pas que c'était un accident.
Il y a des gens, ouais, notamment Cameron avait une sorte de conviction que ça ne l'était pas. En ayant travaillé beaucoup sur le sujet, je pense que si. Mais bon, c'est toujours à caution, évidemment. Quand il est mort en 52-53, il avait été missionné notamment pour la mise en place d'un institut d'aéronautique en Israël. Donc il y a à la fois le côté complot israélien, il y a le côté chasse aux sorcières du macartisme, et puis évidemment ces activités occultes qui ne plaisaient pas beaucoup à l'ingénierie et à l'État américain.
Alors, quelle était la fonction donc Marjorie Cameron, qui est surtout une artiste peintre, dessinatrice, quelle était sa fonction au sein de l'univers de Parsons? C'était sa femme d'une part, mais est-ce qu'elle était déjà une espèce de muse underground, une espèce de figure de prophétesse ou de prêtresse?
Parsons, donc en parallèle de sa carrière d'aéronautique pendant la guerre, il s'enrichit, hein, et Crowley, le groupe de l'Ordo Templiorientis auquel il adhère, le propulse à la tête de la loge. Mais Parsons respecte pas vraiment le protocole, on va dire, du rite crowleyen, et l'adapte un peu à sa manière. À un moment, il consomme beaucoup de drogue, par ailleurs, et puis, engagé dans des processus avec Hubbard, il cherche un peu ce qu'il appelle la femme écarlate, qu'on retrouve dans la littérature de Aleister Crowley. Et un jour, cette femme se présente via son père, Marjorie Cameron, travaillait au Jet Propulsion Laboratory. Elle se présente chez lui, elle est rousse, elle a les yeux verts, elle est très charismatique. Et Parsons voit en elle
foudre.
La femme écarlate telle que dans la littérature crowleyenne. Et,
c'est la créature apocalyptique.
L'introduit dans ses rites de magie sexuelle.
Alors, Jean-François Sens, comment va, à l'intérieur de cet univers de rituels sexuels, de magie, comment va se développer son œuvre d'artiste, Marjorie Cameron? Est-ce qu'elle dessine ce qu'elle voit? Est-ce qu'elle dessine les figures, je dirais, symboliques, le panthéon de l'univers de Crowley? Qu'est-ce qu'elle dessine? Comment elle...
Elle dessine ça, entre autres, mais ce qui est intéressant pour définir sa création, c'est... De remarquer à quel point tout est entremêlé dans sa création. En fait, elle mélange à la fois, elle entremêle des éléments de sa vie personnelle, de sa pratique artistique, de ses croyances spirituelles, et tout est c'est un écheveau très 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 serré, très compliqué, et il y a vraiment des éléments très éclectiques, quoi.
Elle pratiquait l'astrologie, par exemple, donc il y a des séries de dessins qui correspondent à des travaux sur des thèmes astro. Ouais. Elle a aussi, à un moment donné, elle a une des difficultés de couple avec Parsons, elle profite d'une bourse des gens qui ont participé à la guerre, la GI Bill, donc elle est boursière, pour aller étudier dans une école d'art au Mexique, qui accueille les étudiants boursiers américains. Et là, elle rencontre beaucoup des muralistes et surréalistes mexicains qui vont avoir aussi une forme d'influence sur ses premiers travaux artistiques. Par la suite, elle a fait la rencontre de Kenneth Anger, de Saint-Saëns de Brière, chez qui Kenneth Anger a tourné ses films. Elle rencontre tout ce groupe-là et elle est très très aussi imprégnée de l'art cinématographique de Kenneth Anger.
Mais en même temps, elle continue à développer une pratique artistique très personnelle, parce que justement, elle a été muse de pas mal d'artistes, de cinéastes, Curtis Harrington, Kenneth Anger, des gens comme ça. Et je pense qu'elle a été influente pour divers artistes, proches d'artistes de la Beat Generation comme Wallace Berman, George Ernst, ce type d'artistes. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très singulier dans sa création, avec des éléments qui sont empruntés à la Beat Generation. Tout ce qui est hybridation, créatures fantastiques, il y a tout un bestiaire assez
justement,
diversifié.
Justement, essayons un peu de décrire pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de visiter l'exposition à Paris, ce que l'on peut y voir. Alors effectivement, l'affiche le montre bien, alors elle est disponible sur Internet. On voit une sorte de créature qui ouvre les bras à la fois dans une forme de menace prophétique et d'accueil comme ça. Et puis ce sont des silhouettes, c'est des dessins au trait, des personnages qui ressemblent un peu à des racines, à des éclairs, un style extrêmement frénétique.
Ouais, ouais, c'est le personnage que vous décriviez à l'instant, c'est Prince Arundel. C'est issu d'un de ses carnets de dessins, parce qu'en fait, le gros de sa création était dans des carnets de dessins, dans lequel elle associait à la fois dessins, poèmes. Enfin voilà, c'est tout était entremêlé, un peu à la façon des assemblagistes californiens de l'époque. Donc ça, c'est le visuel qu'on a choisi de mettre en avant parce qu'il y avait ce côté un peu. C'est une silhouette noire, un visuel très fort. Il y a un côté un peu princesse des ténèbres. Enfin, je sais pas. Il y a un peu, c'est la méchante dans Blanche-Neige. Un peu, il y a un peu ce côté-là. Et en même temps, c'est un dessin qui est référencé du point de vue de la spiritualité de Cameron et de Crowleyienne, etc. Après, dans l'exposition, ce qu'on présente, c'est une série de 20 dessins originaux. Qui s'appelle Songs for the Witch Woman, qui sont en fait des illustrations de poèmes de Jack Parsons que Parsons avait écrit pour elle et sur elle. Et voilà, c'est chaque dessin correspond à un poème particulier. Et effectivement, après, c'est du dessin au trait avec tous ces éléments qui se retrouvent combinés. On peut sentir plusieurs influences. Qui annonce le psychédélisme aussi, mais moi j'y retrouve aussi des influences d'Egon Schiele, par exemple, au niveau des visages, au niveau des traits, le traitement des cheveux, etc. Voilà, c'est un travail très, très personnel et très singulier.
Alors, dans le dernier numéro de la revue Optical Sound, il y a un dossier consacré à Marjorie Cameron et Ewen Chardronnay. On trouve ce fameux Peyotl Vision de 1955, premier procès en pornographie à un artiste aux États-Unis. Puisqu'effectivement, oui. On voit une sorte de créature des ténèbres posséder sauvagement une femme.
Oui, c'est un dessin qu'elle consommait beaucoup de drogue, il faut le dire, même toute sa vie, elle est morte dans les années 90. Et c'est un dessin qu'elle a réalisé un peu à la commande de Berman. Et puis Berman a un peu exploité la situation côté sulfureux du dessin pour faire la promotion de son exposition. Mais ça s'est un peu retourné contre eux.
Il paraît qu'il avait carrément prévenu les flics lui-même, non que...
Oui, c'est ce qu'elle dit, qu'il avait un peu piégé Berman en exposant ce dessin, que c'est vrai qu'il est assez évocateur. Et à partir de là, elle a refusé d'exposer en galerie ses travaux, l'exposant dans les années 60-70 beaucoup dans des foires de rue, dans le contexte plus hippie des jurons de l'époque. Et puis, elle a seulement recommencé à exposer à partir de la fin des années 80 à Los Angeles. Il y a eu une rétrospective au MoCA en 2014, monographique.
Jean-François Sens.
Oui, mais c'est vrai que elle a eu quelques expos importantes aux États-Unis, mais peu en Europe, en fait. En France, il y avait eu qu'une pièce d'elle montrée dans l'exposition Traces du Sacré en 2008, il y a à peu près une dizaine d'années.
Donc, son Pompidou.
Voilà.
C'était une représentation de Jack Parsons en Dark Angel.
Ouais. Après, il y a eu récemment, l'été dernier, une expo à Dublin. Mais c'est vrai qu'en France, on connaissait très peu l'œuvre de Marjorie Cameron. Peut-être un petit peu le personnage, mais en tout cas l'œuvre graphique, plastique, très peu. Enfin, c'est la première fois que on a l'occasion de montrer autant d'œuvres originales, et puis pas que, puisque on a été en contact avec la fondation Cameron Parsons à Los Angeles, qui nous a prêté pas mal d'éphéméras, de carnets, de croquis de dessins, de photos, de une partie de sa correspondance avec Kenneth Anger aussi qu'on peut voir dans l'exposition. Et en fait, on a traité ça. Enfin, moi, j'ai voulu traiter ça comme une expo dans l'expo, en fait, au niveau du display, de la scénographie, une espèce de mausolée. En tout cas, enfin, c'est isolé du reste, mais en même temps, c'est tellement raccord avec plein d'autres boulots qu'on retrouve dans l'expo que voilà, il fallait à la fois l'intégrer et la mettre un petit peu à part puisque c'était un peu le focus de l'exposition. Et je dois dire que vu les réactions des gens qui sont venus voir l'expo, les gens sont plutôt très étonnés, agréablement étonnés et ravis de découvrir ce travail.
L'exposition est encore 10 jours donc pour la voir.
Jusqu'au 10 janvier.
Jusqu'au 10 janvier, au 17 rue Dieu, donc au siège du groupe Agnès B. À mon seul désir, retour sur 20 ans de Mauvais Genre. Merci messieurs d'avoir été ce soir à Mauvais Genre pour évoquer Marjorie Cameron. Je rappelle le numéro de la revue Optical Sound avec un dossier qui lui est consacré. Les œuvres, je le répète, visibles à l'exposition. Merci Hubert Prolongeau pour cette rencontre avec Anne Reiss. Et je rappelle là que les deux derniers tomes des aventures du prince Lestat sont disponibles aux éditions Michel Lafond. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Eric Boisset, Céam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Hubert Prolongeau et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la première émission de 2018. J'y serai en compagnie de l'écrivain Bernard Quirini pour son ouvrage, son roman paru aux éditions Rivage, Meyerling. Bonne nuit à tous et bonne année.